RMC, les grandes gueules.
Être né sous le signe de l'hexagone.
Ça, c'est Renaud.
C'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment.
C'est mythique.
Ah oui.
Ouais. Et le roi des cons sur son trône.
Il avait... Comme le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. Quand elle était sortie, cette chanson,
Hexagone,
ça avait été
Elle avait été censurée à la radio.
Bien sûr.
Non, dans les 70.
C'était fin 70.
Non, c'est dans les 70.
C'est
un des premiers succès de Renaud.
C'est le seul album de Renaud que j'ai écouté dans ma vie. C'est le seul que je trouve écoutable.
Le premier.
Ah, le premier.
Bien, que se passe-t-il? Quand on regarde nos voisins européens, ils ont tous fait la réforme des retraites. Quand on regarde l'Espagne, hier, ils ont validé la réforme qui prévoit l'âge de départ à 67 ans.
Oui, c'est très intéressant de regarder le modèle espagnol, tout d'abord parce que le gouvernement est un gouvernement de gauche, notamment lié à Podemos. Ce sont un peu les insoumis espagnols. Et en Espagne, on a réussi à faire adopter la réforme des retraites sans heurts, sans casse, sans mouvement de grève d'importance, parce qu'il y a eu une négociation sur 2 ans avec les 2 premiers syndicats, la CFDT et la CGT espagnole, qui ont salué un accord historique. Et pourtant, l'âge légal va être repoussé à 67 ans. Donc, on est bien au-delà des 64 ans français. Avec néanmoins, et c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est que ce gouvernement de gauche va mettre à contribution les hauts revenus. Donc on demande aux revenus de participer un peu plus. On demande aussi au patronat de participer un peu plus. D'ailleurs, le patronat espagnol n'est pas très content. Mais ça permet de faire consensus. À la fois, on demande aux salariés de travailler un peu plus, mais on demande aussi à ceux qui ont les moyens de contribuer davantage au système. Effectivement, parce que certains font remarquer que la durée de cotisation nécessaire pour partir est plus basse. On est en dessous de 40 ans.
38 ans et 6 mois.
Mais il faut quand même aller jusqu'à 65 ans.
Voilà.
Donc c'est déjà au-delà des 64 ans en France. Donc on voit bien qu'il est possible de réformer les retraites, de demander aux gens de travailler plus, sans que ça devienne un drame national. Je rappelle que d'autres pays ont fait la même chose. Je citerai la Finlande, parce que la Finlande peut aussi être proche de notre modèle social. Ils sont passés de 63 à 65 ans, avec un système qui a été intéressant, parce que c'est en fonction de l'accroissement de l'espérance de vie. Donc ils adaptent. Si dans la catégorie professionnelle, tu trouves l'espérance de vie progresse, etc., tu peux travailler un peu plus, etc. Donc il y a des systèmes où on arrive quand même à faire en sorte de travailler plus, parce que le même constat est fait dans tous les pays. On vit plus longtemps, donc la période d'inactivité est plus longue. Il faut bien la financer, il faut bien trouver les moyens de la financer.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en France? Est-ce que c'est nous qui sommes irréformables? On doit tenir à notre spécificité. 32-16 pour en parler avec les jeux, avec les grands gueules. Bruno Poncé.
Je pense
c'est une question de méthode qui vient d'en haut.
Ouais, voilà. Moi, je pense surtout une question de méthode et d'hommes. D'hommes, et malheureusement, ce que je peux pas dire de femmes, parce que à part Borne, mais c'est rarement des femmes qui sont au pouvoir, en tout cas en tant que président de la République. En France, ça n'a jamais arrivé. Mais c'est un vrai problème. Moi, je pense plutôt que c'est pas une question d'être irréformable. C'est juste qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et moi, j'ai toujours dit à mes patrons quand j'étais en instance, j'aurais toujours dit, si t'expliques où tu veux aller, et comment tu veux y aller, à un moment donné, tu peux fédérer les gens autour de toi. Si ton projet, il est bon pour ta société, pour tes salariés, et pareil pour un pays. Si t'expliques où tu veux aller, en expliquant aux gens, voilà, on veut faire ça, et que t'as des vraies concertations, des vraies discussions, et qu'à un moment donné, t'écoutes aussi ceux qui viennent te parler, et je pense que tu peux emmener les gens sur ton projet, et quel qu'il soit d'ailleurs. Parce que, moi je trouve, moi pour l'avoir vécu, ça tient pas qu'à Macron, les autres d'avant ont toujours fait pareil.
Donc t'aurais été espagnol, t'aurais accepté les 67 ans.
Il y a eu 2 ans de discussion. Déjà, 2 ans de discussion, c'est pas 2 semaines. Hein.
Tu vois, c'est vrai. Ça.
Et l'idée, elle est là, c'est que si tu expliques pendant 2 ans et que tu fais,
Et surtout,
tu
associes les syndicats.
Oui, puis surtout, tu fais une cogestion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as dit, Olivier, c'est-à-dire que tu emmènes aussi les hauts revenus à participer, tu dis au patron, tu participes aussi. Là, aujourd'hui, les gens, après le Covid, après cet argent qui tombait de partout, qu'on t'expliquait qu'il était limite gratuit, puis que derrière, il faut que tu le payes pendant 2 ans de plus de ta vie, il y a un vrai problème. Et donc, moi, je trouve que, ouais, mais partout, quand tu discutes et que tu fais une espèce de cogestion, et d'ailleurs, pour moi, j'ai toujours cru qu'un gouvernement, quel qu'il soit, c'était ça, c'est une cogestion. C'est-à-dire que t'es élu, mais tu dois des comptes à ceux qui t'ont élu. et même à ceux qui t'ont pas élu comme moi, parce qu'à un moment donné, moi, je paye aussi des impôts, donc on me doit des comptes de ce qu'on fait avec mon pognon, de ce qu'on fait avec tout ça. Et moi, je trouve qu'en Espagne, il y a au moins 2 ans, au moins, c'est quelque chose qui tient la route.
Non, mais pour fois, je suis assez d'accord avec Bruno Poncet. Le problème, c'est finalement pas la réforme en elle-même, mais la façon dont elle a été amorcée, parce que là, maintenant, ils annoncent des concertations. Fallait peut-être les faire avant. C'est pas entre l'adoption de la réforme et le Conseil constitue qu'on va accueillir les syndicats. C'est un petit peu nous prendre pour des imbéciles, quand même. Je suis pas souvent du côté des syndicats, mais on leur dit, on veut bien discuter avec vous, mais une fois que c'est pas ah bah merci du dialogue, ça fait plaisir.
Donc, les syndicats là en France ont tout de suite dit non aux 64 ans, enfin aux 65 et ensuite aux 64
oui,
ans.
Oui, donc de l'autre côté on a dit on discute sur l'âge. Pas. Donc on ne peut pas discuter. Voilà. En fait. Donc,
et peut-être que Macron n'a pas cherché non plus à se réconcilier avec Laurent Berger. On sait qu'entre les deux hommes ça se passe pas.
D'accord, mais on peut faire dans l'intérêt collectif un léger effort. Et puis c'est vrai que là aussi pour une fois Bruno on est d'accord, 2 ans c'est pas 2 semaines. Là on a voulu faire passer cette réforme à coup de 49-3 dans tous les sens. Bon bah on a réussi, mais à quel prix ? C'est ça aussi, c'est que les Français finalement n'adhèrent plus. Après, soit entre 67 et 60 que veut Madame Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ça montre quand même qu'il y a un gap. Donc il y a aussi 64, ça me semble finalement pas si tard que ça. Il faut aussi regarder ce qui se passe à côté, ne pas venir pleurnicher dans tous les sens.
La moyenne européenne des départs effectifs 65. À la retraite aujourd'hui, elle est de, la moyenne européenne départ effectif, elle est de 64,3 ans. Ouais. Voilà pour les hommes et 63,5 ans. Pour les femmes.
Et, voilà. en France, c'est
63,1 à peu près.
Après, donc, on est pas
c'est là où tu te dis, franchement, finalement,
c'est
l'effort qui est demandé.
Non,
mais c'est pas tellement, je pense. Là, c'est surtout le fait qu'on dit qu'on fait des mesures paramétriques d'économie et qui concernent la retraite. C'est ça, à mon avis, aujourd'hui, qui passe pas. Bruno Poncet.
Bah, bientôt, je serai maire de quelque chose, j'espère bien. Non, mais.
Vierzon.
Pourquoi pas. Mais n'oublie pas non plus que, au-delà de l'âge, t'as aussi le nombre d'années de cotisation. Et en Europe, on est quand même les champions du monde à 43 ans.
Ouais.
Faut pas oublier ça, parce que ça, c'est important. Parce que quand tu dis à un gamin, et tu vois, c'est pour ça que t'entends les lycéens qui grognent et puis les étudiants, quand tu dis à un gamin, tu vas sortir parce qu'il faut que tu les finisses.
Mais pour le coup, 43 ans, c'est pas Macron, c'est.
Oui,
Hollande.
c'est Touraine. Non, mais
Hollande,
de toute façon.
Marisol Touraine.
Oui, mais elle était.
C'était une femme, parce que tu disais les femmes à l'âge, pour le coup, c'était une femme qui portait cette.
Oui, mais elle l'a fait parce qu'on lui a demandé de le faire.
Marisol Touraine n'est pas quelqu'un, n'est pas un pantin. Elle avait les convictions. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu d'hypocrisie, pardon, Bruno, je t'ai coupé, mais la gauche a accepté les 43 ans.
Ouais.
Là, elle est vent debout. Enfin, pas toute la gauche, mais la gauche socialiste qui était au gouvernement. Oui, mais celle qui était au. Je pense que tu as voté François Hollande.
Ah, mais je n'ai jamais voté de ma vie. N'oublie jamais ça.
Tes amis ont voté François Hollande. Donc, cette gauche-là était à fond pour les 43 ans. Et là, elle est vent debout parce qu'on accélère les 43 ans. Il y a quelque chose qui est un peu ridicule. Mais est-ce que c'est pas plutôt une. Parce que pour toutes les réformes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de. On est toujours dans le conflit en France.
C'est la communication le problème aussi.
Ouais, je ne suis pas sûr, mais on est toujours dans l'idée d'aller au conflit. C'est-à-dire, il y a des grèves préventives. Dans plein de pays, ça n'existe pas, les grèves préventives. Tu fais grève si tu n'as pas réussi à te mettre d'accord. Tu fais pas des grèves avant de discuter. C'est quand même un peu la méthode de la CGT, on fait grève pour établir un rapport de force.
En tout cas, moi je peux parler pour ma paroisse. Nous à la SNCF, tu as un cycle pour te mettre en grève.
Tiens,
3 semaines.
Au moment où il est en train de parler de la SNCF, Bruno Poncet, bonjour monsieur Giraud.
T'as qu'à venir la veille aussi, il y a des trains qui ça fonctionne mieux la veille.
Ça, c'est sûr que les trains qui roulent à 3h de l'après-midi, ils partent plus à l'heure que ceux qui partent à 5h du matin. Ça, c'est
alors explique-nous ton périple, Didier.
Bon, comme d'habitude, quoi. Suite aux difficultés de mise en place du train. Voilà, quoi.
Il y avait des vaches sur la voie.
Ça se trouve, c'est même pas des cheminots en grève, c'est juste du matériel qui fonctionne pas, quoi. Par contre, j'ai fait mon petit calcul quand même. C'est censé être ma 13e émission depuis le 1er janvier aujourd'hui. 6 annulations. 4 trains en retard, quoi. Si moi, je bossais comme toi, tu bosses, je pense que tu mangerais le mardi et le samedi, quoi.
Et dis-moi, ça coûte combien un billet?
Sauf si t'es vegan, c'est ça. Si t'es vegan, c'est fini.
Ouais, c'est globalement les paysans qui mettent dans ton assiette, quoi.
Donc, 13 trains, 10 qui ont posé problème, quoi.
Ouais, voilà. Ah oui, quand même. Sympa, quoi, je veux dire. Bon ratio, quand même, quoi.
Tu prendras quand même un avertissement.
Oui, normal.
Ah, écoutez.
Normal. Faut que tu demandes à Jebari de te filer un jet privé et puis après il t'emmènera le plus vite.
Et ça coûte combien un billet?
Bruno Poncet,
sans faire des vannes, réponds un peu.
Non, mais moi j'entends ça. Le sujet, c'est que derrière chaque problème de train, il y a surtout un problème d'organisation. Et moi, ma boîte, ça fait des années qu'elle a détruit l'emploi. Et si tu veux des trains à l'heure, si tu veux du personnel dans les trains, faut embaucher. Et tu vois, ça, nous on le vit aussi. Et quand Didier il grogne parce qu'il a pas son train, moi j'ai mes collègues qui travaillent là-dedans et qui sont en colère parce que leur train part en retard aussi, parce que
ils travaillent pas dans les bonnes conditions. Parce que du coup j'ai regardé toute la semaine, parce que j'étais censé être là mardi, journée de grève, on a reporté à vendredi, donc j'ai regardé quand même les trains toute la semaine. Enfin le train de 6h50, enfin le 5h50 à Lyon, il est jamais à l'heure. C'est parce le 9h il part à l'heure quoi, hein. Alors tu m'expliques que c'est un problème de personnel, ok, mais c'est plutôt le personnel qui démarre à 5h du matin que le personnel qui démarre à 9h.
Il veut pas se lever quoi.
Non, c'est à 9h, tu rigoles. Moi, enfin, je suis nul, c'est ce que c'est de travailler tout le temps. Non, mais après, il faut savoir, t'es parti avec quoi ? C'est un Ouigo ou...
Non.
Un train normal.
Un TER.
Parce que les Ouigo, c'est aussi compliqué à mettre en place.
Normal. Et pour répondre à sa question, ouais, sans réduction, 104.
C'est cher, hein ? Aller ?
Non, l'aller-retour.
Aller-retour.
Aller-retour, oui.
Enfin, c'est pas
pour combien ? Non. C'est avec 50%. Ça coûte 104
en première ou en seconde ?
En seconde, avec un abonnement.
Ah oui,
l'aller-retour coûte 104. Donc, sans l'abonnement, c'est 104 l'aller simple.
Hein. Eh oui.
En seconde.
Pour faire.
En seconde.
Pour faire, c'est pas non plus.
Pour faire 2h30 de train.
Même pas.
1h20.
Ah ouais, c'est super cher.
Qui te remplace 4 heures de bagnole. Enfin,
autant prendre la
bagnole. C'est là où il y a quand même un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il faut arrêter de prendre la bagnole.
Mais le train, ça marche pas.
En même temps, faut prendre ta bagnole pour être à l'heure, quoi.
Le train, c'est un bras et t'arrives en retard.
Si j'avais fait 4 heures de bagnole, je serais plus à l'heure que si j'avais fait 1h20 de TGV.
Allez, on revient à notre sujet de discussion. On se demande si la France n'est pas irréformable, parce qu'on parle des 67 ans en Espagne. C'est Nabil qui va en discuter avec les GG. Bonjour Nabil.
Bonjour
Nabil, vous êtes réalisateur vidéo. Alors, quelle est votre opinion, Nabil ?
C'est très simple, en fait. Quand on dit que quand le français n'est pas réformable, c'est aussi une facilité qui nous empêche d'être un peu dans le détail des choses. Vous connaissez le défaut de la politique. On utilise des termes et on considère que comme on les a utilisés, ils sont valables. Mais quand on utilise cheminement démocratique, en termes de ressenti, est-ce que vous croyez vraiment que le citoyen moyen aujourd'hui, il a le sentiment d'avoir participé à un cheminement démocratique, même si dans la réalité, le 49-3, par exemple, fait partie de la Constitution ?
Oui, mais si, c'est vrai. Est-ce que la responsabilité, elle n'est pas aussi bien de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui sont censés accepter la réforme ? Parce que j'ai l'impression qu'on part tout de suite dans le conflit dès le début. Alors que dans d'autres pays européens, on se met autour de la table, on prend le temps de discuter, et il y a une obligation de trouver un consensus.
Ah, mais Olivier,
en France, il n'y a jamais cette obligation.
Non, mais Olivier, tu n'oublies quand même pas que Borne, elle a dit 64, on touche pas.
Nabil, allez-y.
Franchement, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le citoyen français. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être une culture différente sur 2-3 modes de contestation, on est d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on est tout de suite maintenant dans un système binaire qui fait qu'on va tout de suite considérer que le pays n'est pas réformable et on ne peut pas aller sur le terrain des choses ? Vous rendez compte qu'aujourd'hui, utiliser le mot démocratie, ça devient un mot qui fait mal aux oreilles des gens ?
Mais donc, est-ce que vous pensez, Nabil, que sur les autres grandes réformes de la retraite, quand Mitterrand amène la retraite à 60 ans, est-ce que vous pensez qu'il y avait un cheminement démocratique où les citoyens se sont exprimés ? Je crois pas. Alors ça allait dans le bon sens, on est d'accord. Mais
en élisant Mitterrand, c'est ce qui
non mais voilà. Du coup, si ça marche avec Mitterrand, ça marche avec Macron.
Sauf que Macron, c'est toujours mon raisonnement. Sauf que Macron. Le deuxième tour, c'était pas l'adhésion à la retraite, c'était pour dire non à Le Pen.
Bah, peu importe, il a été élu dans les deux cas.
Giscard, c'est pas Le Pen. Même si Giscard, c'est pas mon meilleur ami,
non, mais
Giscard, c'est
pas Le Pen. Il y avait une usure du pouvoir.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que
la droite
le cheminement démocratique, on le met en place.
Oui, mais à la fin, le résultat, c'est que la personne a été élue.
Didier, il arrive en retard en train, il dit cheminement, tu vois.
Allez-y, Nabil, pardon.
Oui, simplement, vous voyez bien qu'on a changé d'époque. Vous voyez bien, par exemple, que notre Constitution, elle semble nous dire aujourd'hui qu'on est aux limites de la possibilité de la concentration des pouvoirs. Voilà. Ouais, c'est les époques qui sont différentes. Vous voyez bien qu'on est au carrefour d'une multitude de souffrances aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Je ne suis pas sûr qu'on souffre plus que nos voisins. Moi, j'ai l'impression qu'en France, le travail
est plus dur.
Le travail est plus dur, tout est plus dur. Je suis désolé, on a une des espérances de vie les plus importantes d'Europe et du monde. Notre système social est envié par tout le monde. Parce que quand on regarde en France, les soins, ça coûte peu cher. L'école, elle est gratuite. Alors bien sûr, on paye beaucoup d'impôts pour ça. Mais il y a quand même, c'est plutôt quand vous allez à l'étranger, les gens se disent « Ah, la France, quand même, c'est un paradis, etc. » Et nous, on a l'impression que chez nous, ça sera toujours plus compliqué.
Nabil, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va continuer la discussion avec Nicolas. C'est intéressant parce que Nicolas, en fait, il nous écoute, devinez d'où ? D'Espagne. Donc il pourra nous parler de ce qui s'est passé en Espagne. L'Espagne qui passe à 67 ans. Pourquoi nous en France on n'y arrive pas alors toute l'Europe y arrive. On continue la discussion avec vous au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Maintenant sous le signe de l'hexagone. C'est pas ce qu'on
feigne
en ce moment.
Oui, on continue de parler de l'Hexagone, la spécificité française à contester la réforme des retraites, alors que tous nos pays, tous les pays voisins l'ont faite. Et puis on n'oublie pas le rugby, les amis. Et l'Hexagone aussi, c'est l'accueil de la Coupe du Monde de rugby, là, à la rentrée prochaine. On a deux places à vous offrir pour une très belle affiche. Deux places à vous offrir quand vous entendrez ceci. Vous aurez 5 minutes pour m'envoyer coupe par SMS au 732-16, coupe par SMS au 732-16. C'est limité à 3 SMS par personne. 75 centimes d'euros le SMS. Dès que vous entendez le AK, allez-y, les places de rugby, c'est pour vous. Et le gagnant, c'est dans le Super Moscato Show. On continue de parler de la réforme en France, donc avec Nicolas qui nous écoute de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir. Vous nous suivez Bonjour. De quelle manière, Nicolas, alors ?
Via l'appli RMC sur mon mobile.
Et mon cher Nicolas, alors ça s'est passé tranquillement en Espagne, alors cette application de la réforme ?
Oui, enfin, il y a eu un débat politique, évidemment. Ouais. Mais oui, en tout cas, socialement, ça s'est passé tout tranquillement, oui.
Comment vous l'expliquez ?
Ben, parce que tout simplement, enfin, moi, quand je regarde la France depuis que je le compare à l'Espagne, j'ai l'impression que en France, rien ne fonctionne, mais d'une manière générale. Et qu'en Espagne, tout fonctionne, je ne vais pas dire que tout est parfait, mais tout a l'air de fonctionner beaucoup mieux qu'en France. Par exemple, hier, j'ai été faire mon plein à 1,35€. Bon, ben, je pense que si le plein, il était à 1,90€ comme en France, déjà, la tension en Espagne serait plus importante. Je vais aux urgences avec mon gamin. 2h30 après, je suis sorti, il a radio, et tout va bien. Et je peux
vous habitez dans quelle région d'Espagne?
En Catalogne, oui, c'est important.
Voilà, voilà,
c'est important.
Ouais,
mais c'est important.
Ouais, c'est vrai, parce que moi, je
connais bien l'Espagne.
Oui, c'est ça, c'est un pays, la Catalogne.
Voilà. Mais ça fait partie aussi de, je pense, ce qui fonctionne en Espagne, c'est cette décentralisation qui donne le sentiment aux gens d'avoir un peu de contrôle sur leur vie.
Alors, pas sur les
retraites, mais par exemple sur la médecine, et sur tout un tas de trucs.
C'est vrai.
Et puis, c'est un peu... Comment vous dire ça? En France, on a un peu le boulard, quoi. C'est-à-dire
On est d'accord.
C'est ce qu'on disait. Hein.
On est persuadé d'être meilleur, surtout. Ouais.
C'est ça. Et donc, on cherche des absolus, surtout. Alors qu'en Espagne, on se sent, c'est la 14e économie du monde, on a bien conscience qu'il faut faire des compromis, réfléchir et se mettre d'accord.
En fait, on se voit trop beau. En fait, on n'a pas compris que le pays n'était plus dans les premiers. Donc, on s'adapte. On n'arrive pas à s'adapter à notre nouvelle position économique. En fait.
C'est vrai.
Voilà. Mais donc, du coup, aussi, en France, vous vous rendez moins compte des problèmes. Moi, j'aide des gens à s'expatrier ici en Espagne. je vais vous donner un exemple. Une famille parisienne qui est venue vivre en Espagne. Uniquement parce qu'elle a un enfant gravement autiste et que ici il est pris en charge d'une manière incroyable, alors qu'en France il n'y avait aucune solution pour ces gens depuis 10 ans.
Non, c'est le paradis l'Espagne si on vous écoute. Non, la Catalogne.
D'abord c'est la Catalogne. Il faut vraiment préciser.
Et il y a une guerre sur le carburant entre la Catalogne et le reste de l'Espagne.
Un peu. Ouais.
Je dirais que c'est peut-être même un peu plus cher en Catalogne qu'ailleurs.
Ah oui.
Ça veut dire qu'il y a quand même un choix politique fort.
Oui.
De ne pas accompagner la crise en rajoutant de la crise à l'inflation et de dire eh ben on baisse les taxes, c'est ça que ça veut dire hein.
Ah non mais il y a toujours eu un delta entre les taxes en France et les taxes.
Ouais, mais là il est plus grand qu'il y a 10 ans.
Je sais pas trop comment ça s'est passé les taxes en France, mais en tout cas
c'est le produit le plus taxé
de l'autre côté des Pyrénées. Je ne l'explique pas.
Oui. En fait, ce que vous êtes en train de démontrer,
on a depuis toujours fait le plein.
Si nous, on l'explique très bien.
Quand t'es frontalier, t'as toujours été faire plein en Espagne.
D'ailleurs, j'ai écouté une petite brève d'info l'autre jour. comme quoi les recettes fiscales n'ont jamais été aussi hautes. Oui. Forcément, le carburant y contribue.
Mais quand on nous a dit, regardez, on vous redonne de l'argent, quand on la ristourne fiscale,
ça, c'était de l'enfumage.
Le trop-plein perçu qui était rendu.
L'illustration de ce que dit Nicolas, c'est qu'en fait, on est arrivé, alors tu dis, c'est Bruno qui disait, t'es arrivé aux limites de la cinquième ou Nabil. C'est pas la cinquième, c'est l'État.
Oui, c'est l'État.
On est arrivé aux limites.
Et le côté boulard aussi.
C'est ça. Mais parce qu'à l'État, on a le boulard.
Mais on a un chef d'État qui souvent.
On a des gens qui font la loi, qui ont le boulard, des conseillers qui ont le boulard.
Des énarques ont le boulard.
Des ministres qui ont le boulard. Et alors, le plus dingue, Nicolas.
Qui sait qu'on le boulard.
Non, mais sûrement aussi. Bien sûr, parce que quand ils font les rapports, c'est les mêmes. Ils disent, on a la vérité. Non, mais Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, voilà, il faut bien se rappeler que l'Espagne, c'est un pays avec des régions.
Ah oui,
en France, on a voulu faire ces putains de grandes régions. Et en fait,
on a fait que rajouter des charges.
Voilà, on a rajouté des charges et des strates.
Oui, c'est ça. On fait des trucs partout.
Non, mais sans ça, ne serait-ce que le dossier région, la fusion de régions, elle a rajouté des charges. Parce que t'as pas baissé le personnel. Les deux hôtels de région, on en a plutôt reconstruit un qu'abandonné un. Et globalement, on a rajouté des strates et des charges.
Nicolas, vous habitez en Espagne depuis combien d'années maintenant?
Depuis 8 ans.
8 ans. Et si je vous dis, vous revenez au pays?
Ah, jamais de la vie.
Il a l'air bien.
Mais
vous êtes où en Catalogne, précisément?
J'habite à Cambrils, c'est une heure au sud de Barcelone.
D'accord.
Dans la province de Tarragone.
Et vous faites quoi là-bas?
Je vous dis, en fait, je suis chasseur de biens immobiliers et j'accompagne les gens, alors principalement les retraités, mais aussi de plus en plus des actifs, à venir s'installer ici en Espagne.
Mais quand on est retraité, par exemple, c'est plus intéressant l'Espagne, le soleil espagnol, plutôt que celui de la Côte d'Azur, par exemple, en termes fiscaux.
Ouais. En termes de pouvoir d'achat, peut-être aussi.
De pouvoir d'achat, de fiscalité.
En termes de pouvoir d'achat, très clairement, même avec l'inflation, ça c'est une évidence. En termes de fiscalité, sur le revenu, pas vraiment, c'est pas un paradis fiscal. Par contre, les impôts locaux, ça n'a rien à voir. Par exemple, moi j'habite une maison de 100 mètres carrés à 500 mètres de la plage, je paye 700 euros par an de taxes foncières.
Ah oui.
La taxe d'habitation n'existe pas.
Chez nous, c'est pareil avec un zéro de plus, quoi.
Voilà.
Moi, Nicolas, je connais bien l'Espagne. Je connais bien l'Espagne, Nicolas, et parce que ma compagne, son père est espagnol, ma compagne est espagnole aussi. Et en 2008, la crise a mis un coup à l'Espagne phénoménal. C'est-à-dire que les fonctionnaires ont soit perdu leur travail, soit ont dû réduire leur salaire. Enfin, et l'Espagne s'en remet aujourd'hui doucement. Mais par exemple, vous parlez de la Catalogne, que je connais bien. Les loyers en Catalogne étaient très chers pour les jeunes. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comment on appelle ça, de copro, enfin de gens qui s'habitent ensemble.
De colocation.
Colocation, c'est ça, voilà. Moi, je comprends. Et en plus, moi, si je pouvais venir vivre en Espagne, j'y viendrais tout de suite. Ça, c'est clair.
Que vous pouvez vous entraider.
Toi, tu pourrais aller vivre. Oui.
Ah oui.
Et pourquoi qu'est-ce que tu
Moi, j'ai de la vie espagnole. Enfin, moi, le rythme espagnol, la vie espagnole. Enfin, voilà.
Le train ne démarre pas à 5h, mais par contre, il peut tourner à 23h.
Non, mais la RNF, ça marche pas si bien que ça.
J'ai bien compris.
La RNF, ça marche pas si bien que ça.
Non, mais.
Allez-y, Nicolas, pardon.
Ouais, ce que Bruno dit aussi, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que c'est très informel, mais l'état d'esprit est totalement différent. Moi, je me souviens avant le Covid, la veille du confinement, les gens vivaient normalement, ils étaient aux terrasses des cafés, et on verra bien demain.
Alors, ils sont à la cool, quoi.
Mais même à la fin du Covid, rappelez-vous, Nicolas.
À la fin du
Covid, Nicolas, rappelez-vous, l'État espagnol a dit, on va vivre avec cette maladie-là, on va arrêter les restrictions et basta, on est tous dans la rue, quoi.
Voilà. Mais attention, parce que c'était un peu à double sens, mais c'était très malin. C'est-à-dire que Sanchez est venu à la télé, je me souviens, ça devait être autour du 1er janvier 2021, en expliquant que l'Espagne n'avait plus les moyens de reconfiner.
Exactement.
Et en fait, les gens, ce qu'ils en ont compris, c'est un, bonne chose, on ne sera plus jamais reconfiné. Deux, mais attention, si les morts s'accumulent dans les hôpitaux, il faudra qu'ils fassent quelque chose. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que prenez-vous en main pour ne plus avoir à vous faire reconfiner. Et c'est ce qui s'est passé.
On a fait confiance à la population.
On infantilise moins qu'en France.
Vous avez un peu raison aussi, c'est que le français, mais le français moyen, je dirais, puis même le pas moyen, il attend un peu tout de l'État, quoi.
C'est ce que je disais.
Ah, bah ça.
On est arrivé aux limites.
On est quand même devenu un pays d'assistés, quoi.
Parce que
fait des chèques dans tous les sens.
Parce que l'État nous explique qu'il va s'occuper de toute ta vie.
Oui, mais tu lui donnes la moitié de ton salaire. Enfin, moi,
je lui donne la moitié de ton salaire.
Et tu sais pas où la moitié de ton salaire va, vu qu'il n'y a rien qui fonctionne, en plus.
On est entièrement d'accord. Sauf que tu donnes la moitié de ton salaire, donc à un moment, tu te dis, je lui donne la moitié.
En plus, l'hôpital, ça fonctionne pas, il n'y a rien qui marche.
Allez-y, Nicolas.
Non, juste un truc, dans ce que dit le français moyen attend tout de l'État. Oui, après, je rappelle que le triptyque de l'État français, c'est liberté, égalité, fraternité. Quand on fait une telle promesse aux gens, faut pas s'étonner qu'en retour, ils attendent beaucoup.
Oui, et d'ailleurs, c'est surtout égalité avant liberté.
C'est des promesses intenables par l'État français. Et les gens, c'est logique, les gens attendent qu'on les tienne.
Ouais. Merci Nicolas de cet exemple espagnol d'avoir discuté avec les GG. Je vous dis à bientôt. Merci de votre.
Déjà.
Le AK. Donc c'est le moment de gagner les Coupes du Monde avec notre partenaire Total Energy, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Vous avez entendu le AK. Donc si vous voulez gagner les deux places pour une très belle affiche de cette Coupe du Monde, vous avez 5 minutes maintenant pour envoyer Coupe par SMS au 732-16. Coupe par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Le gagnant sera dévoilé tout à l'heure dans le Super Moscato Show à partir de 15h. Après Nicolas en Espagne, on va du côté des Alpes-Maritimes avec Carole. Bonjour Carole.
Bonjour
Carole.
Alors, dites-moi Carole, est-ce que c'est la faute des Français, la faute de nos gouvernants si le pays n'arrive pas à se réformer?
Bah alors il y a plusieurs choses, mais il y a surtout la faute d'un monsieur qui a été mis en place et qui l'oublie comment, c'est-à-dire que c'est pas pour lui ou pour sa politique, mais pour barrer quelqu'un. Donc déjà c'est pas la même chose. Qui n'écoute rien ni personne, qui prend les gens de haut et qui nous traite de tout, mais qui lui ose porter plainte contre les gens quand on lui dit ce qu'on pense. Donc c'est quand même fort de café, ça je trouve. Hein, pour des ministres qui font des bras d'honneur à eux, on leur dit rien, et puis à une dame, on va la chercher chez elle parce qu'elle lui dit ses quatre vérités. C'est quand même un peu fort de café, je trouve. Deuxièmement, quand on veut prendre l'exemple sur des pays étrangers, il faut faire comme eux, c'est-à-dire qu'en Espagne, les gens, ils partent à la retraite avec le salaire qu'ils ont au dernier jour de travail. Ils partent pas avec les 25 meilleures années, qui fait que quand vous vous retrouvez à la retraite, vous avez un salaire de misère, et c'est pourtant, vrai. Vous êtes dans une société où vous vous êtes cassé le dos, vous vous êtes tout cassé tout le long de votre vie.
Et on vous a prélevé. Et vous avez payé des impôts et on vous a prélevé aussi.
Voilà. Et en plus, comme vous êtes une femme, vous avez des carrières hachées. Ouais. Donc, qu'il vaut finir à travailler jusqu'à 67 ou 70 ans et que je suis déjà toute cassée. Vous voyez, là, je me dirige vers pour faire une radio parce que je pense que je me suis cassé une côte. Et c'est comme ça tout le temps, quoi. Et nous, donc, on doit travailler, rien dire, aller aux urgences, aller partout et même en accident de travail, continuer à payer parce que maintenant, on vous demande de payer quand vous allez aux urgences alors que vous payez des cotisations et que vous êtes en accident de travail. Donc ça veut dire que un retraité en Espagne, quand il est retraité, il part avec son salaire du jour de la retraite, il ne paye plus aucun médicament, plus aucun frais quand il est à la retraite, d'accord ? Donc quand on veut parler des pays étrangers, il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est parce que après, on est en train de vendre l'Espagne comme le pays le plus idyllique au monde. J'imagine que sur d'autres points, la France peut-être est mieux. Mais en fait, c'est la façon dont on réforme. En France, alors moi, je pense pas que c'est uniquement la faute du président de la République. Je pense que c'est la faute de tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, on est tout de suite dans le conflit. C'est-à-dire qu'il y a des grèves préventives. On n'arrive pas à se mettre autour de la table. Est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer notamment du modèle des modèles scandinaves? Même de l'Allemagne, on arrive à se mettre d'accord et à avancer.
Il y a un dialogue aussi dans les pays scandinaves.
Olivier, que Macron, sous son premier quinquennat, a massacré les corps intermédiaires. Ah oui.
Ils se sont massacrés aussi tout seuls.
Jusqu'au boutiste. Non, mais quand c'est les corps intermédiaires, va de Sud jusqu'à la FNSEA, si tu veux, ce que je connais. Enfin, j'ai quand même écouté dire tout le temps pendant le premier quinquennat, il veut pas travailler avec nous. C'est quoi. Vrai. Il a pas besoin
mais
de nous.
Mais reconnaît que la CGT,
et la
par exemple,
la cogestion, elle est revenue il y a pas très longtemps.
Reconnaît que la CGT n'a jamais été dans la cogestion. Et que à force de dire non aussi à tout, effectivement, et je pense pas que c'est une bonne chose. Emmanuel Macron s'est dit, on pourra pas réformer le pays avec eux. Il n'arrive pas à le faire sans eux. Donc c'est vrai que sa démonstration n'est pas bonne.
Allez-y. Pas envie de parler avec quelqu'un qui n'écoute pas et qui vous prend de haut et qui n'a envie que de faire le coq devant tout le monde et de parader et de ne rien faire d'autre.
L'attitude, elle est pas bonne, vous avez entièrement raison. C'est un vrai manque d'humilité de sa place. Mais d'un autre côté, c'est évident, il ne connaît pas les gens qu'il gouverne. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort des écoles privées, quelqu'un qui a fait des hautes écoles, ne peut pas vous dire, avant, moi je suis pas d'accord avec ce qu'on a eu avant, mais ils avaient été élus de terrain, ils avaient été élus maire de leur patelin.
Ils ont fait les grandes écoles aussi, hein. Hollande a fait les nages,
ils avaient sali leur pompe, aller dans des endroits où lui, il a jamais mis les pieds, hein. Donc à un moment donné, tu sais, quand quelqu'un te connaît pas, mais il peut pas savoir ce que tu dois, ce qui est bien pour toi ou même ce qui est mal pour toi.
Non, le problème, c'est que lui, il est persuadé de connaître.
Allez-y, Carole, oui.
J'ai 25 ans de boîte, d'accord. Je gagne 1 700 euros à peu près avec les primes. J'ai voulu me loger. Je gagnais trop pour être aidée, mais pas assez pour me loger. Et là, parce que ma mère se met sur le bail avec moi, puisque je vis seule, je suis divorcée et que ma fille est grande et en couple, et ben il a fallu que ma mère vienne avec moi sur le bail, sinon je pouvais pas me loger. Ouais. Donc je travaille.
Parce qu'il demande 3 fois plus en plus.
Ouais. Ouais, mais c'est ça, il y a toutes ces aberrations, c'est sûr, on est d'accord avec vous. Hein, et aujourd'hui, au-delà d'être ingouvernable, c'est surtout qu'on est tellement mal gouverné depuis des années que la gabegie qu'il y a au haut de l'État fait que nous, aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Et vraiment, il y a une vraie colère qui monte et elle est inarrêtable.
Mais reconnais, là, mettons Macron de côté, mais quand Hollande a voulu réformer le travail,
ça
a été le foutoir.
Sarkozy aussi,
quand quelqu'un. Toutes les réformes des éducations nationales, le nombre de fois où ils ont été obligés de reculer.
Oui, mais regarde, il y en a un qui vient, il fait toujours l'envers de celui d'avant. Enfin, là, l'autre, là, on a Papendia qui vient d'arriver, il te remet les maths alors que l'autre, il les avait sortis. Enfin, tu sais, il n'y a pas de ligne directrice.
Il n'y a pas de continuité.
Mais c'est pareil dans les entreprises nationales comme moi où je travaille. On ne te fait pas un plan sur 10, 15, 20 ans. On te fait un plan sur 10, 15 jours et on dit, tiens, et puis au bout de 15 jours, on dit, bon, écoute, on revient en arrière, on va faire le contraire. Ça ne marche pas comme ça. Et tu ne gérerais même pas ton budget comme ça.
Après, pour conclure sur le modèle espagnol, il faut voir que l'Espagne est le pays où il y a la plus grande espérance de vie quasiment en Europe à plus de 84 ans, qui ne sont pas sûrs de pérenniser non plus le modèle des caisses sociales qui risque d'être déficitaire aussi à moyen terme.
Il y a des régions qui sont pauvres aujourd'hui. De la répartition, tout simplement.
Donc voilà, il faudra voir sous 10 ans ce que ça va donner. Merci à Carole d'avoir été avec nous. Bonne journée, Carole.
Bonne journée. Au
revoir. À bientôt dans les GG, dans les grandes gueules. Est-ce que la France est irréformable? On va regarder la consultation. C'est votre humeur.
Alors là, c'est très
partagé. La France irréformable, on est à non 50,9 et oui 49,9. On était quasiment à 50-50. Vous voyez,
donc pour la France est réformable.
Pour ceux qui ont suivi la discussion.